France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City, Sandy in the house.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Es.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans les tribunaux américains ce soir. C'est Donald Trump évidemment qui parle, c'est la semaine dernière au sujet de ce juge qui tentait de bloquer les avions de migrants renvoyés dans leur pays. Le juge a dit que nous ne devrions pas pouvoir les expulser, dit-il, que nous ne devrions pas être autorisés à les faire sortir de notre pays. Ça n'est pas un travail, mais ça c'est un travail, pardon, présidentiel. Ça n'est pas un juge local de prendre cette décision et c'est terrible, c'est ce que dit le président américain. Bonsoir Anne Desine.
Bonsoir.
Vous êtes professeure émérite à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes juriste spécialiste de la Constitution américaine. Votre dernier livre s'appelle « Les juges contre l'Amérique » aux éditions
Presse universitaire de Nanterre.
Eh bien voilà, merci beaucoup. Le tableau, Anne Desine, quand on le regarde de loin, peut paraître assez désastreux. Ce juge, effectivement, qui a ordonné d'ailleurs aux avions de migrants en partance pour le Salvador de revenir, n'a pas été écouté. Les avions sont bien partis. Mais si on regarde aussi d'un peu plus près, l'interdiction des personnes trans, par exemple, dans la L'armée a été retoquée, la suppression du essai de l'agence de développement est bel et bien contestée. Qui gagne la bataille du droit jusque-là ?
Pour le moment, si on considère qu'il y a eu plus d'une centaine de décrets, en majorité illégaux ou inconstitutionnels, plus de 120 actions en justice, et là on parle de référés dans l'urgence pour bloquer telle et telle chose, avant une décision au fond bientôt. Trump a surtout perdu. Les rares fois où il a gagné, c'était sur une question de recevabilité, parce que c'était pas le bon tribunal, parce qu'il y avait une étape qui avait été sautée, ou bien parce que les gens qui ont intenté l'action en justice ne remplissaient pas le critère de ce qu'on appelle l'intérêt à agir. Enfin, globalement, en première instance, on voit que le judiciaire s'est mobilisé. C'est intéressant parce qu'en dépit de ce que dit Trump, qui les qualifie de gauchistes, de tarés, etc., il y a des juges qui ont été nommés par George W. Bush, certains par Reagan, et même l'un d'entre eux par Trump. Donc il n'y a pas simplement de ce qu'il appelle des Obama judges.
Donc ça veut dire qu'ils sont sur la balle, pour dire les choses très clairement. C'est même peut-être d'ailleurs l'un des seuls contre-pouvoirs pour l'instant qui a les moyens d'être sur la balle. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça ?
Oui, tout à fait. Le Congrès a renoncé à tout. Les médias font du bon boulot. Là, l'article du New York Times ce week-end, mais il faut voir ABC qui a transigé alors que pour 15 millions de dollars, alors qu'il aurait sans doute pu gagner. Même chose pour Meta, 25 millions de dollars. Donc on voit qu'il y a des réticences. Or, les médias avaient été un bon contre-pouvoir durant le premier mandat. De même, les États qui s'étaient beaucoup battus. Si on prend l'exemple de la Californie, le gouverneur essaie de ne pas trop attirer l'attention sur lui. Donc on voit que c'est effectivement le pouvoir judiciaire qui essaie de résister. Là, nous sommes, je répète, dans les référés en urgence. Je pense que la plupart des décisions, au fond, les juges vont statuer contre Trump, mais il reste le niveau de l'appel. Et ensuite, la Cour suprême. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les républicains MAGA sont furieux de ce qui se passe, mais c'est ce qu'ils ont fait durant la présidence Obama et durant la présidence Biden. C'est-à-dire qu'ils ont sélectionné les bons juges, les bons tribunaux, pour être sûr d'avoir la réponse qu'ils voulaient en première instance.
Lui dit, Trump, qu'il veut dans sa colère, il veut destituer les juges qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est pour ça que le juge Roberts de la Cour suprême lui a tout simplement rappelé le droit. Quand même, pour qu'un juge de la Cour suprême rappelle le droit, non seulement cette réforme, mais c'est surtout très rare. Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que ça dit pas, là encore, que ce pilier-là est en train de résister, y compris dans une Cour suprême dont nous savons tous qu'elle est favorable à Donald Trump, en tout cas qu'elle est conservatrice ?
Oui, et qu'elle ne va pas nécessairement gagner. Là, nous sommes dans un climat de délégitimation du judiciaire. Ça fait des années que Trump dit les juges sont vendus, les juges, etc. Et c'est repris par toute la blogosphère. C'est-à-dire, et Musk, en ce moment, est devenu vraiment un ennemi des juges, un ennemi des judiciaires, du judiciaire. Et lui joue un rôle important pour essayer d'amener les membres du Congrès à commencer des procédures en destitution pour ces juges. Alors c'est vrai, ces juges, ils sont nommés à vie, et le seul moyen de se débarrasser d'eux, c'est de les mettre en accusation, ça c'est la Chambre, et ensuite procès en destitution au Sénat.
C'est bien ce qu'a rappelé le juge Roberts.
Voilà.
Ça n'a pas de sens, en fait. Théoriquement, c'est impossible.
Disons que c'est pas impossible, mais c'est une procédure qui est en cas de trahison corruption ou aux cris et délits. Et il a bien dit, le président de la Cour, John Roberts, lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision, il y a la voie de l'appel. La mise en accusation ne saurait pas être un remède acceptable et toutes ces intimidations, ces violences, ces insultes ne sont pas acceptables parce que ce sont des attaques contre ce qu'on appelle aux États-Unis rule of law, la primauté du droit.
Est-ce que ce n'est pas une excellente nouvelle pour les États-Unis quand même, ce qui est en train de se passer dans les tribunaux, Andésine ?
Ben, pas tout à fait, parce que ce qu'il faut craindre, c'est que là, pour le moment, on a des petits exemples de non où l'administration ne s'est pas conformée pleinement aux décisions du juge. Donc, quelque part, est-ce qu'il va y avoir un moment où l'administration, Trump, va écouter ce que dit le vice-président ? Ils n'ont qu'à se débrouiller, ils rendent leur décision en citant une parole apocryphe du président Andrew Jackson, ou bien ceux qui disent ben, ce sont des vilains mots, etc., il faut tous les envoyer, les limoger, ce qui n'est pas possible, les destituer. Et donc, quelque part, il faut se demander si la Cour peut résister. Or, il faut savoir que la Cour, toute seule, n'a aucun pouvoir. Ça a été bien rappelé dans la Bible qui explique la Constitution. C'est le fédéraliste par Hamilton, à l'époque. Il disait « Le judiciaire est un pouvoir égal, mais c'est le moins puissant, car il ne dispose ni de l'épée, ça c'est l'exécutif, ni du porte-monnaie, c'est le législatif. » Donc la seule force de la Cour, c'est l'opinion. Est-ce que l'opinion est derrière elle ? Et pour le moment, il n'y a pas vraiment de basculement de l'opinion pour dire à Trump « Ce que vous faites, c'est pas bien. »
Alors, deux choses quand même. Parce que je voudrais qu'on revienne un peu sur le juge Roberts, parce que ça dit quand même des choses de ce qui est en train de se passer à la fois à la Cour suprême et peut-être aussi dans les tribunaux fédéraux et les tribunaux locaux. Le juge Roberts, il est conservateur, il a été nommé par George Bush... W. Bush, donc oui, Bush Junior. Ces jugements sont quand même intéressants parce que c'est lui qui permet à Donald Trump de se présenter au fond puisque il considère qu'il est qu'il jouit d'une immunité. C'est lui aussi qui vote pour l'avortement, mais pour défédéraliser le droit à l'avortement. Mais en même temps, dans un cas en Louisiane, c'est lui qui permet à la Louisiane de continuer à travailler dans le domaine de l'avortement. Il y a plein de choses comme ça chez ce juge-là, qui semble dire, ce qui est censé être élémentaire d'ailleurs, le droit d'abord et le droit avant tout. Est-ce qu'on ne peut pas même imaginer une Cour suprême indésine qui est clairement conservatrice aujourd'hui, mais qui, sur le point du droit, sur ce qui est en train de se passer, à un moment ne peut pas être derrière Donald Trump ?
Alors, la première chose, c'est que Roberts, c'est un conservateur, très conservateur. Il est pour un pouvoir exécutif fort, la théorie de l'exécutif unitaire en particulier. Et là, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est un institutionnaliste. C'est-à-dire que lui est pleinement conscient que si la Cour rend des décisions qui sont totalement à côté de l'opinion publique, et ça a été le cas sur le droit à l'avortement, qui a été supprimé au niveau national et renvoyé vers les États... La Cour, et d'ailleurs ça s'est vu dans les sondages, perd de sa crédibilité, perd de sa légitimité. Donc quelque part dans ses décisions, il y aura cet aspect-là. Ensuite, tout va dépendre de la question. Je pense qu'il y a des questions qui sont tellement énormes, des violations tellement évidentes. Par exemple, lorsque Trump veut mettre fin au droit du sol par voie de décret, alors que c'est un amendement, donc il faudra un amendement à la Constitution des États-Unis. Je pense que le Chief Justice, donc Roberts, va trouver un autre conservateur, sans doute la juge Barrett, de façon à ce qu'il y ait 5 voix pour bien dire « Non, monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire cela ». Même chose sur impoundment, le fait que l'administration cherche à bloquer les sommes qui ont été votées par le Congrès. Le Congrès, c'est le pouvoir budgétaire. Je ne vois pas la Cour suprême faire droit aux demandes de l'administration. Mais il y a des domaines plus petits. Et là, il est possible que le côté conservateur ou le côté de Roberts, où il est très en faveur d'une présidence forte, parce qu'il a travaillé à la Maison-Blanche, il a travaillé au ministère de la Justice, donc il a ce tropisme pro-exécutif. Et là, il va sans doute statuer dans le sens que souhaitent et Trump, et Musk, et tous ceux qui veulent démanteler l'État administratif, comme ils disent, c'est-à-dire les agences, les ministères, tous ceux qui mettent en place le filet social.
Donc cette phrase de Vance qu'il a piqué peut-être à Hamilton, qui dit les juges n'ont pas le droit de contrôler le pouvoir légitime de l'exécutif. Est-ce que, à certains égards, un juge de la Cour suprême peut adhérer à cette phrase-là ? Est-ce que Roberts y adhère ?
Pas de façon générale, mais sur un certain sujet, par exemple, une question qui va se poser, c'est le pouvoir de révocation des membres des agences. Là, Trump a révoqué les 2 membres démocrates de l'agence FTC, celle qui s'occupe de lutter contre les monopoles et de protéger les consommateurs. Bon, je suis sûre que le président de la Cour, Roberts, si l'affaire vient devant la Cour, aura envie de dire « oui, le président peut le faire ». parce que c'est ce qu'il pense profondément. Simplement, est-ce qu'il peut se permettre, en termes d'acceptabilité de la décision et donc de légitimité de la Cour, c'est là que tout va se jouer.
Vous le disiez, effectivement, le judiciaire n'a pas le pouvoir financier, n'a pas le pouvoir législatif non plus. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ignorer ces injonctions, au fond, et c'est bien ce que Donald Trump est en train de faire. Est-ce que c'est là qu'on le perd, au fond, le check and balance? Si, typiquement, par exemple, ces avions remplis de migrants vers le Venezuela sont partis malgré une injonction judiciaire, est-ce que ça veut dire que désormais aux États-Unis, ce que disent les juges peut être ignoré par l'exécutif ?
Nous sommes en train de nous acheminer vers cela. Bon, l'affaire des migrants, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que l'administration invoque une loi de 1798 qui est une loi uniquement en temps de guerre et en cas d'invasion, mais de vraie invasion.
Même c'est d'ailleurs dans ces cas-là seulement qu'elle a déjà été utilisée.
Voilà, cette loi, et elle a été utilisée durant la Deuxième Guerre mondiale pour interner les Américains d'origine japonaise et c'est resté une marque
une blessure,
importante.
Ouais.
Voilà, pas seulement les juristes, pour les Américains. Donc, quelque part, le fait d'invoquer cette loi, ça suscite un vrai tollé. Ensuite, il y a l'idée qu'il y a eu littéralement des rafles d'un peu tout et n'importe qui, des Vénézuéliens, dont on n'est pas du tout sûr, et on est surtout sûr qu'ils ne sont pas affiliés au fameux gang Tren de Aragua.
Mais qu'est-ce qui se passe en droit, Anne Desine, si effectivement un président des États-Unis ou une administration américaine, dès lors qu'un juge a dit attention, là, non, ça n'est pas légal, ça n'est pas constitutionnel, et qui dit je m'en fous, les avions partent quand même, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe derrière ?
Nous avons une crise constitutionnelle. Là, vraiment, lorsqu'il y aura un refus vraiment visible, évident, de se conformer à une décision importante, comme l'invocation de cette loi et l'expulsion de gens qui ne sont pas des terroristes, malgré ce que dit l'administration, cela veut dire qu'il n'y a plus de frein et de contre-pouvoir et que le judiciaire ne peut pas jouer son rôle. C'est pour ça que je dis, en fait, il faut qu'à un moment, l'opinion publique vienne conforter les décisions de la Cour en disant « Oui, nous voulons que ces décisions soient appliquées parce que le président est allé trop loin, parce qu'il viole la loi, la Constitution. »
Donc c'est le crash test de quoi du système judiciaire américain, du check and balance réellement tel qu'il existe depuis presque 300 ans
de tout, c'est-à-dire tout ce système qui est fondé sur les contre-pouvoirs, dont celui du judiciaire, est mis en cause à partir du moment où Trump ne respecte rien, y compris des traditions qui ne sont pas nécessairement constitutionnelles, mais non écrites, quand il limoge les procureurs, quand il s'attaque au cabinet d'avocats, tout simplement parce qu'ils ont défendu Hillary Clinton ou le procureur spécial Jack Smith, là, on franchit à chaque fois des étapes dans l'arbitraire et le non-respect de la Constitution.
Comment ça se passe, la nomination des juges fédéraux ? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des places qui se libèrent, on est d'accord ?
Oui.
Ça marche comme à la Cour suprême, si je puis dire.
Ils sont 1000 à peu près.
Je veux dire, c'est est-ce qu'on sait qu'il va y en avoir là, par exemple, j'en sais rien, 10, 20, qui seront donc nommés de fait par Donald Trump, puisque le juge fédéral, il est nommé par le président avec
l'approbation du
Sénat.
Bon, comme le Sénat a renoncé à tout, on sait que ce sera approuvé, d'autant plus qu'il n'y a plus de blocage, de filibuster. En fait, tout dépend des juges qui vont partir à la retraite. Donc, il y a des juges conservateurs qui sont contents de partir à la retraite maintenant, parce que ce sera un président, je ne peux même plus l'appeler conservateur, enfin disons parce que Trump, qui est peut-être républicain, surtout MAGA, va nommer un successeur. Et le problème, c'est qu'il a nommé les 250 juges qu'il a nommés durant son premier mandat, sont des gens qui ont été sélectionnés par la Federalist Society pour une certaine compétence, mais pas tous, parce qu'ils sont anti-régulation et en faveur d'un exécutif fort. Et donc, c'est ça le problème.
On va suivre en tout cas qui part à la retraite, là, de ces 1000 juges fédéraux. Merci beaucoup, Anne Desine. Merci de votre passage chez nous. La suite, ce soir, ça se passe en Colombie. Ce sera un reportage de Najed Benrabah. Vous verrez que des fosses communes ont été découvertes et on vous racontera cette histoire-là. Pour aller jusqu'à 19h, le gang habituel, c'est Kevin Dufraîche, sous les radars.
Au Chili, pour la première fois, des peuples autochtones de tous les continents réunis pour défendre la planète.
Le Monde à 18h50, Franck Madvon. Salut Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. On reparle de négociations sur le nucléaire iranien, mais est-ce vraiment sérieux ? Sans doute pas, et on verra pourquoi.
Et la BO du Monde, Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir. Face aux attaques de Donald Trump contre leur pays, les Canadiens donnent de la voix, un élan de patriotisme en musique.
Allez, à tout de suite, tout le monde reste avec nous. Le tour de la planète continue après une petite pilule bleue, les Viagra Boys. Man Made of Meat, c'est dans la playlist de France Inter. By electric motors made by goblins in a factory overseas.
buy drywall and other products that they can eat back at home on the sofa. They watch TV about a man named Chandler Bing, who died in a freak hot tub accident and spent his time drinking hot dog flavored water on a popular TV show called Tub Girls.
I don't wanna pay for anything, clothes and food and drugs for free. If it was 1970, I'd have a job in a factory. I am a man that's made of meat, and you're on the internet looking at feet. I hate almost everything that I see, and I just wanna disappear.
Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay.
I stand outside of the McDonald's. I'm flexing my muscles till I explode. I hope they see me in the drive-thru lane. I hope they see me in the drive-thru lane. Free woman sweaters, you know what I mean?
Le reportage ce soir est en Colombie où depuis plusieurs mois des fouilles dans une fosse commune ont permis de retrouver les premières victimes des disparitions forcées. C'est historique parce que ça faisait des décennies que les familles de victimes réclamaient des recherches et que les autorités niaient les faits. Cette fosse commune se trouve dans une décharge de la Comuna 13 de Medellín. Entre décembre dernier et février, 4 corps ont déjà été découverts. Pour les familles, c'est un soulagement, même si le combat est très loin d'être fini. Le reste, depuis Medellín, c'est Najed Benrabah qui raconte.
Au pied du métro Parque Berrio se trouve une des églises les plus emblématiques de la ville, la Candelaria. Sur les marches de l'édifice blanc immaculé, chaque mercredi, des familles brandissent les portraits de personnes disparues il y a près de 30 ans. Les passants les interrogent.
Il y a des gens qui ne savent rien de tout ça. Il faut en parler.
C'est justement notre but. Notre présence ici tous les mercredis, c'est pour interpeller sur cette problématique les passants, les nouvelles générations et les personnes qui visitent notre ville.
La femme qui répond aux questions des passants s'appelle Luz Amparo Mejía. Elle fait partie de l'association Les Mères de la Candelaria, telles les mères de la place de Mai d'Argentine. Depuis 26 ans, elle ne manque pas un rassemblement.
Ils disaient tout le temps qu'on était folles et que nous étions contre l'État, que rien n'était vrai, jusqu'à ce que les audiences de la justice spéciale pour la paix commencent et que les démobilisés disent qu'ils ont enterré nos proches là-bas. Moi, j'ai deux cousins disparus. On m'a confirmé que l'un d'eux, âgé de 17 ans, est là-bas, dans la décharge, parce qu'ils m'ont dit de le chercher là-bas. Je suis donc dans l'attente. L'autre, je ne sais pas où ils l'ont abandonné. Je me trouve dans le même cas que 75% des femmes du collectif qui sont presque sûres que leurs proches sont dans cette décharge.
Les familles des disparus ont commencé à dénoncer les crimes en 2001. La découverte de 4 corps entre décembre 2024 et janvier 2025 était une première historique sur le site de la Escombrera. Même si nous avons pu voir le site en question, il est impossible de filmer ni d'obtenir des entretiens, car désormais, tout est protégé par une enquête judiciaire. Selon le communiqué de la juridiction spéciale pour la paix en charge des fouilles, toutes les victimes présentent des signes de violence qui ont causé leur mort. Les blessures correspondent à des coups de feu tirés lors d'une exécution. Dans la Comuna 13 de Medellín, l'unité de recherche a enregistré 502 personnes déclarées disparues. Depuis l'an dernier, date des débuts des fouilles de la fosse commune, les maires de la Candelaria se relayent tous les jours sur le site de la Escombrera pour suivre les fouilles. Luz Amparo y participe également.
Nous sommes en train d'organiser des groupes de 20 maires pour se rendre sur place. C'est important qu'on puisse voir de nos propres yeux ce qu'il s'y passe. Participer aux fouilles nous permet de trouver une sorte de paix, tranquilliser l'esprit et faire notre deuil, donc on y sera tous les jours. Même si c'est une expérience qui génère beaucoup de joie et de tristesse, car chaque découverte de corps soulage une famille qui sort alors du collectif.
Comme Luz Amparo, des centaines de familles cherchent la vérité. Elles sont représentées par une organisation d'avocats militants pour les défenses des droits de l'homme, la Corporation Juridique Liberté. Sergio Arboleda en fait partie.
Pour les victimes de la commune 13, par exemple, nous représentons 150 mères. Pour des cas d'exécution extrajudiciaire, nous représentons aussi environ 170 personnes ou familles, voire plus puisque les cas se multiplient. Il y a d'autres cas de disparition forcée dans la zone rurale de La Esperanza, où on représente aussi 70 familles. Alors disons que c'est une représentation un peu massive et évidemment notre travail n'est pas facile. Il y a beaucoup de victimes et nous sommes peu nombreux pour les représenter.
D'après les témoignages de militaires et paramilitaires recueillis par la juridiction spéciale pour la paix, il pourrait y avoir des centaines de victimes dans cette ancienne décharge, la Escombrera de la Comuna 13. Car ce quartier a été le théâtre d'une guerre de territoire entre plusieurs groupes armés, dont la guérilla, les paramilitaires et les bandes criminelles. Dans les années 2000, il y avait même un camp de paramilitaires en face de la décharge. Le travail de la justice ne fait donc que commencer.
Najed Benrabah pour le reportage. Merci beaucoup et à très vite. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et c'est au Chili d'abord que nous sommes avec un appel.
Oui, celui de 22 chefs indigènes, 22 peuples autochtones qui vivent en harmonie avec la nature, venus des 5 continents, réunis pour lancer un message au monde entier. Mettons fin à la destruction de la terre.
La floresta está gritando.
La terre crie fort, mais personne ne l'écoute. Assène, par exemple, Yama Nomanawa, cacique du peuple amazonien Nokekoi, avec sa coiffe traditionnelle faite de plumes. Protégeons la vie, insiste-t-il. Cette réunion des chefs indigènes est une première historique. Cette cérémonie commune à Graneros, au sud de Santiago, au Chili, était le point final d'un pèlerinage, en fait, d'un mois et demi à travers le globe. Commencé en Italie, passé par l'Australie, l'Inde et le Zimbabwe, chacun a évoqué les préoccupations environnementales de sa région, la déforestation en Amazonie bien sûr, ou encore l'exploitation minière en Mongolie par exemple, qui engendre de la pollution.
Et nous sommes au Venezuela où les fonctionnaires vont travailler moins.
Ah oui, et ce n'est pas par choix ni une grande avancée sociale, c'est à cause du barrage de Guri qui produit plus de 3/4 de l'électricité du pays. Sauf qu'à cause de la sécheresse qui touche le Venezuela et globalement toute la région, le débit n'est plus suffisant pour répondre à la demande d'électricité. Résultat, il y a des coupures et pour s'adapter, le gouvernement adapte donc les horaires des fonctionnaires pendant les 6 prochaines semaines. Ils ne travailleront qu'un jour sur deux et seulement le matin de 8h à 12h30. Globalement, la population est appelée à utiliser le moins d'électricité possible, notamment en limitant l'usage des climatiseurs. Les coupures d'électricité sont régulières au Venezuela ces dernières années. Elles ont parfois duré plusieurs jours. Le gouvernement étant accusé de ne pas faire la maintenance suffisante, les autorités parlant plutôt de sabotage. Ces derniers mois, l'électricité a été rationnée pour les mêmes raisons en Équateur ou encore au Costa Rica.
Et puis nous voici en Bulgarie avec une belle bourde.
Oui, et c'était il y a 8 jours sur la pelouse du FC Arda, club de foot de la ville de Kardjali qui évolue en première division. On a entendu le son tout à l'heure. En fait, avant le début du match, le speaker annonce une minute de silence en mémoire d'un certain Petko Gantchev, gloire locale, ancien attaquant de l'équipe, disparu quelques jours plus tôt. Les mines sont basses, le moment émouvant, les applaudissements à l'issue dans tout le stade. Sauf que Petko Gantchev n'est pas mort du tout. Il est même en pleine forme, à 78 ans. Le principal intéressé a vite été mis au courant puisque le match était diffusé à la télé. Ses amis, sa famille, tout le monde lui a alors téléphoné. Au début du match, il n'était pas chez lui. Quand il est rentré 10 minutes plus tard, sa femme, toute paniquée, l'a accueilli en lui disant « On a annoncé ta mort à la télé ». Petko Gantchev préfère en rire. Au journal bulgare Blitz, il explique qu'être enterré vivant, c'est vraiment stressant. Alors quand j'ai appris la terrible nouvelle, dit-il, je me suis servi un petit cognac. Dans la foulée, le FC Arda a présenté ses excuses, évidemment évoquant de fausses informations reçues, tu m'étonnes, et lui souhaitant, je cite, de nombreuses années en bonne santé.
Voilà, au moins il sait comment ça se passera le moment venu. Merci Kevin, à demain, vous partez avec Alila Diane de Pirates Gospel sur France Inter. Cat Diane de Pirates Gospel sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h, presque 50, c'est Franck Madvon.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Franck, l'Iran se dit ouvert à des négociations indirectes avec les États-Unis, mais peut-on vraiment y croire? Ce soir, vous nous dites que de telles discussions n'ont presque aucune chance d'aboutir à un accord sur le nucléaire.
Oui, il faut d'abord avoir en tête les événements récents qui replacent ce dossier du nucléaire iranien au cœur de l'agenda diplomatique. Début mars, Donald Trump a envoyé à l'Iran une lettre demandant la reprise des négociations en vue d'un accord. Sinon, il menace d'attaquer le pays. On ne connaît pas le contenu précis de cette lettre, mais d'après les fuites, la tonalité serait assez dure. Le guide suprême Ali Khamenei y a répondu vendredi, grand discours à l'occasion du nouvel an iranien, et propos très fermes là aussi. Les Américains n'obtiendront rien par la menace, ou encore si quelqu'un agit avec malveillance, qu'il sache qu'il recevra de sévères gifles.
Donc pas tout à fait un climat propice à des négociations.
En effet, d'autant que l'administration Trump montre déjà les muscles. Il y a une dizaine de jours, les États-Unis ont conduit des frappes au Yémen contre des bastions Houthis, organisation soutenue par l'Iran, vous le savez. En représailles, les Houthis ont visé un porte-avions américain en mer Rouge. Donald Trump tient désormais l'Iran pour responsable de toute attaque commise par ces rebelles. Trump a réactivé en fait la politique de pression maximale sur l'Iran en vigueur lors de son premier mandat. Il profite de l'affaiblissement de Téhéran. Ses proxys, ses alliés au Moyen-Orient ont subi, les proxys de l'Iran bien sûr, hein, ses alliés au Moyen-Orient ont subi de sévères défaites, le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les milices pro-Iran d'Irak et de Syrie, sans oublier la chute de Bachar el-Assad.
Ça veut dire que l'Iran est vulnérable.
C'est la conviction des États-Unis et de son allié israélien. Trump fait le pari que cette fois, l'Iran devra négocier et faire des concessions sur son programme nucléaire, programme qui a considérablement avancé depuis que le président américain a retiré les États-Unis de l'accord de Vienne lors de son premier mandat. Mais on l'a dit, le guide suprême ne cède rien, il répond même à la menace par la menace, et le programme nucléaire demeure un atout capital dans le jeu de Téhéran. Un diplomate israélien le formule ainsi en se référant aux échecs. Le régime iranien, c'est le roi, et le programme nucléaire, la reine. Le roi peut-il sacrifier sa reine? D'où un scénario dont la probabilité n'a sans doute jamais été aussi élevée, c'est celui de frappes israéliennes contre des installations nucléaires iraniennes. Cette semaine, une délégation israélienne est attendue à Washington pour convaincre les États-Unis que l'heure est venue, l'Iran serait très proche de la bombe.
Mais il y a d'autres scénarios, Franck.
L'Iran table vraisemblablement sur un scénario qui éviterait la guerre sans s'engager dans des négociations sérieuses. Les Iraniens sont très doués pour ça. Les discussions indirectes que propose aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi s'inscrivent dans cette stratégie qui donne l'impression que la diplomatie est encore en vie. Quant à l'hypothèse de vraies négociations et d'un possible nouvel accord sur le nucléaire iranien, ce n'est pas totalement exclu, mais on le répète, ça semble improbable dans les mois à venir. Il faudrait un cessez-le-feu à Gaza, un apaisement avec les proxys iraniens comme les Houthis, et même la fin de la guerre en Ukraine pour que la Russie, proche de l'Iran, puisse jouer de nouveau un rôle de médiateur. Patience donc.
Franck Madvon, merci beaucoup. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute la musique que la planète fait en tournant et c'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Alors Cyril, bon, on fait comme à la maison, hein, puisque j'avais pas votre feuille, vous venez de me donner la vôtre. La BO du monde ce soir est au Canada, sursaut d'orgueil des Canadiens face aux attaques de Donald Trump, qui s'exprime donc aussi en musique.
Oui, mais Donald Trump aura au moins réussi cet exploit, réveiller la fibre patriotique des Canadiens, musiciens ou simples citoyens. Il s'en donne à cœur joie sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines avec des chansons par dizaines. Notre pays n'est pas à vendre, nous ne serons jamais votre 51e État, ou encore Yankee Go Home. Mais certains préfèrent en rire, comme l'acteur Tom Green.
I'm a Canadian, I'm a Canadian, I'm a Canadian. I'm a Canadian, I'm a Canadian, I'm a Canadian. I go outside in the driving snow and the sleet and hail. With a beer in my hand, I can drink all day and rarely end up in jail. With my hockey stick and skates on the ice since I was just 4 years old. My American friends came up to go fishing but left 'cause it's too cold.
suis déjà fan.
Avec une bonne dose d'autodérision, ce texte énumère tous les clichés associés au Canada dans l'esprit des Américains. Ça va de la bière au hockey sur glace en passant par le sirop d'érable. Pas mal de parodies de chansons célèbres également. J'ai vu passer un inévitable « We Will Survive ». Un peu plus original, ce détournement d'un classique de Neil Young, très grand musicien canadien, immensément célèbre aux États-Unis, « Southern Man », transformé ici en « MAGA Man ». MAGA, Make America Great Again. Trump voudrait bien exporter son slogan au Canada, mais non merci, we're already great, nous sommes déjà géniaux, lui répond ce refrain.
Et pourtant, hein, Cyril, le sujet est beaucoup plus sérieux qu'il en a l'air. Le risque d'une guerre commerciale préoccupe énormément les artistes canadiens.
Et il y a de quoi. Le marché américain est un débouché vital pour des milliers de groupes et de chanteurs professionnels, surtout ceux venus du Canada anglophone. Comme le résume un article du magazine Rolling Stone, les USA, c'est 10 fois plus de public, 10 fois plus d'opportunités de concert, 10 fois plus de revenus pour un artiste de Toronto ou de Vancouver. Et en ce moment, certains sont amenés à vivre des moments un peu particuliers sur la route. Ça, c'est le duo Cassie and Maggie, originaire d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les deux chanteuses ont vécu récemment une interpellation un peu musclée, on va dire, par la police américaine. Ça s'est passé dans l'Ohio. Elles se sont retrouvées questionnées par les policiers au bord de l'autoroute sur leur loyauté vis-à-vis des États-Unis, un moment assez pénible à vivre, comme elles le racontent dans la presse canadienne. Au-delà de cet incident isolé, l'inquiétude porte surtout sur la hausse des droits de douane qui pourrait plomber les revenus sur les ventes de disques ou de t-shirts importés en tournée. Inquiétude aussi pour les visas, avec des délais d'obtention de plus en plus longs. Il y a eu un vrai changement, visiblement, depuis le retour de l'administration Trump. Pas question, pour autant, de boycotter les États-Unis. On l'a vu, les artistes canadiens sont trop dépendants économiquement du marché US et ils n'entendent pas se couper de leur public, avec qui les liens culturels et musicaux restent extrêmement forts. C'est ce qui a inspiré cette jolie balade. The sitcoms night and day. Dick Van Dyke, when you're sick in bed, he used to be the best of friends. Balade du chanteur Jim Cuddy. We used to be the best of friends. Nous étions les meilleurs amis du monde.
Eh oui, Cyril, merci beaucoup. À lundi prochain.